Bon midi, bienvenue à l'émission Dans Jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Très heureux d'être en votre compagnie encore une fois avec Pascal CV. C'est toujours un bonheur de faire de la radio avec vous. On en fait pas mal cette semaine avec le remplacement dans Marceau le matin. Moi, Pascal et Max. Max vient de vous laisser avec un excellent point de Max de 10h à midi. Nous, on est là de midi à 14h comme à l'habitude. Et par la suite, ce sera le retour de Gravel de 14h à 18h. Un petit Marceau le soir pour ceux qui s'ennuient. Un petit Marceau le soir où on va justement remettre... ça va être un épisode qui a déjà été joué. En attendant, 418-971-1011 pour nous joindre. Vous le savez également, la web radio sur le blvd.fm. Vous pouvez également aller réécouter nos meilleurs moments. Parmi des bons moments qu'on a eus ce matin dans Marceau le matin, je voudrais aller réécouter l'entrevue avec Maïté Blanchette Vizina. C'était très bon, son bilan, justement, de la dernière session parlementaire. Stephen Blaney est avec nous aussi pour nous jaser de ce budget-là de la ville de Lévis. Et excellente chronique avec Farnel Morisset et Lambert Drainville sur les 500 $ de Pablo Rodriguez. Ben oui, grosse histoire encore une fois autour du financement de la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez. Également, n'oubliez pas l'application Boulevard 102.1 sur App Store, Google Play Store. Très important, téléchargez-les parce que dans le temps des fêtes, souvent, ben, on s'en va à l'extérieur, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis. Vous allez pouvoir nous écouter toute la période des fêtes. On a une superbe programmation pour vous également. Et twitch.tv/blvd/fm. Pascal CV, comment vas-tu?
Salut, ben je vais bien. Excuse-moi, je ris parce qu'on se transforme dans tout ce qu'on peut.
Et voilà, tu viens de faire un travail de technicienne extraordinaire.
Oui. Je courais la technique finalement, trouve une solution.
Même Victor t'applaudit.
Ben, c'est grâce à lui qu'on est capable de se débrouiller en ce moment parce que ben, c'est un collaborateur aussi de Marceau le soir, fait que j'ai pu donner un lien finalement qu'on utilise ailleurs.
Mais, c'est super.
Ça va très bien. Écoute, on est dans les doubles, puis à chaque émission qu'on fait, l'actualité évolue. On ne peut pas demander mieux. Par contre, quand on vient qu'à parler des déboires du Parti libéral ou qu'on vient à parler de François Legault qui se met un pied dans la bouche, ou qu'on vient à parler du fameux lexique d'interdiction au niveau de certains mots entre les murs de l'Assemblée nationale, il y a des choses que je choisis que je préfère, puis c'est le lexique.
Hey, Pascal, on va aller faire un petit tour, voir à LCN. Ah non, OK, on n'ira pas. Ça vient de terminer parce qu'on a justement un journaliste de TVA qui est devant la porte du bureau de Monsef Déragi. Donc,
oui,
on va attendre
une réaction.
Oui, on va attendre une réaction de Monsef Déragi. On sait, Monsef Déragi, il n'est pas trop Pablo Rodriguez. Hein. Il ne s'est pas positionné contre son chef, mais il ne s'est pas positionné pour non plus. Donc, ça va être intéressant de voir la réaction.
Ne pas se positionner, parfois, c'est donner un peu la réponse en politique. Je ne sais pas si notre invité va être d'accord avec nous, mais oui, Monsef Déragi, qui est quand même une tête importante du Parti libéral, qui ne doit pas la trouver drôle là, que le parti soit dans l'eau chaude comme ça.
Pas du tout. Avant d'aller rejoindre Victor Henriquez, qui remplace Antonine Iaccarini dans le caucus. Parle-nous donc de ça, là, le nouveau scandale autour de Pablo Rodriguez, les enveloppes à 500 $, puis quelques autres petites manchettes aussi, les buts de neige qui font jaser.
Oui, je commence avec ça parce qu'on a eu une réaction de François Legault. Bien, si vous pensez que c'était une farce depuis ce matin, non, les buts de neige devront être réglementés dans les écoles. Sinon, on porte un casque. Le premier ministre François Legault trouve que c'est des consignes qui font pas de sens.
Ben oui.
La ministre Sonia Lebel, qui est sa ministre à l'Éducation, a invité directement les directions d'école à exercer leur jugement. Par contre, dans ce dossier-là, ce qu'on semble comprendre, c'est que c'est une histoire peut-être d'assurance qui est en sous-couche de tout
Exactement.
Ça.
Exactement.
Donc, est-ce qu'on est capable d'être assuré comme il se doit si jamais il arrive incident, accident avec le fameux jeu du roi de la montagne? Bien là, la question se pose. Donc, le politique peut bien trouver ça absurde, mais si c'est une façon d'être certain d'être capable d'éviter une poursuite coûteuse puis de ne pas abîmer encore plus les finances des centres de services scolaires, bien c'est peut-être le cas du pourquoi on en parle aujourd'hui.
Le DG des centres de services scolaires a dit à Mario Dumont, en entrevue dans l'émission de Mario Dumont ce matin, c'est une conseil qu'on ne donnera pas, mais Mario Dumont n'arrêtait pas de répéter « Ouais, mais les assurances le veulent. » Donc, il y a quand même un certain danger de ne pas respecter cette consigne-là, même si on la trouve tous absurde. Là.
Au terme de cette conversation gouvernementale, bien, c'est de dire qu'on invite à exercer le jugement au niveau de la direction, comme pour toutes les activités extérieures. L'important, c'est que les élèves puissent jouer dehors, profiter de l'hiver dans un environnement adéquat et que ce ne serait pas une question autre que le gros bon sens. Voilà ce que Sionel Lebel avait à dire aujourd'hui. Si on lit un petit peu plus les technicalités de cette nouvelle qui fait tant jaser, c'est que la hauteur de la butte dans une cour scolaire auquel les enfants ont accès devrait se situer entre 1,8 et 3 mètres, avec une pente d'environ 25 % sortez le compas, puis une zone de remontée et d'attente qui devrait être identifiée.
Mm-hmm. En autant que ça ne soit pas une remontée mécanique gérée par RCR, on est correct.
Oui, bien déjà, on a de l'avance. Si les conditions ne peuvent pas être respectées, c'est un casque que les enfants doivent se mettre. Alors, peut-être qu'on va ajouter ça sur la liste scolaire en début d'année.
Exactement.
Après, on va réglementer quel casque on peut avoir, ouais. Avec quelle sangle. Et... Non, mais pour vrai, je comprends les parents d'être un petit peu submergés aujourd'hui par cette direction-là.
Clairement. 500 $ à Pablo Rodriguez, là, c'est un scandale qui a eu lieu dans une maison.
Oui, bien, c'est ce qu'on apprenait ce matin. Je pense que c'est la grosse nouvelle du jour. Campagne de Pablo Rodriguez, des enveloppes de 500 $ comme tu disais, en comptant, en argent comptant, pour rembourser une vingtaine de donateurs. On dit des gens qui se connaissaient, qui se sont rassemblés dans une maison et on aurait récolté en fait de l'argent en termes de dons, puis on les aurait remboursés directement en argent à cash lors d'une soirée de financement. C'était en avril dernier, donc Bureau d'enquête de Québécois qui a mis au jour des événements qu'on dit troublants dans ce cas-ci. Vous savez, là, c'est illégal de faire ce genre de choses-là. Organisateur de l'événement, c'est un homme d'affaires qui est fortuné. Mm-hmm. Il a promis, en fait, de dévoiler certaines informations si on gardait l'anonymat, ce qu'il a fait. Donc, dévoiler et on garde son anonymat. Il a accepté de revenir sur le déroulement de la dite soirée. C'est pour ça qu'on a toutes les informations. L'homme d'affaires a donc décidé qu'il allait recevoir une enveloppe bourrée de billets d'argent en échange de contributions des gens qui étaient à l'intérieur de la maison. Une vingtaine d'enveloppes qui a été distribuées pendant l'événement de financement. On corrobore cette version-là avec d'autres sources. Déroulement de la soirée qui remet donc en question la légalité de près de 10 000 $ qui a été amassé par l'équipe de Pablo Rodriguez, qui est finalement devenu chef du Parti libéral.
Et on va immédiatement en discuter avec Victor Henriquez, qui est en remplacement d'Antonine Iaccarini dans le caucus. Victor, comment vas-tu?
Ça vient bien, Jeff. Salut, Pascal.
Wow. Victor, une autre tuile qui s'abat sur la tête de Pablo Rodriguez. Ça fait plus de sens. Il faut qu'il quitte. Là. Il ne peut pas demeurer en poste.
C'est drôle parce que tu disais, Pascal, que c'est un homme fortuné. Puis je me disais, hey, comme quoi tu peux être fortuné et avoir aucun maudit jugement. c'est absolument extraordinaire de voir cette histoire-là ressortir. Puis quand je parle de manque de jugement, c'est qu'on dirait qu'il n'y en avait pas dans le temps, il n'y en a pas plus aujourd'hui. Puis je vais vous dire pourquoi. Toute cette histoire des remboursements de dons, c'est quelque chose dont on a entendu parler à de nombreuses reprises dans le monde politique. C'est arrivé au municipal, c'est arrivé au fédéral, au provincial, des gens qui faisaient donner leurs enfants, des fois même, des choses comme ça. J'ai entendu ça partout, puis il me semblait qu'on avait passé le message qu'on n'avait pas le droit de rembourser un don à un parti politique. Ça a bien de l'air qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé le mémo puis qui continuent à faire des choses comme ça. Mais en plus de ça, cet homme d'affaires-là a décidé d'aller en parler aux médias en protection, en disant « je vais protéger mon anonymat, mais je vais en parler aux médias ». Moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà à ce moment-ci, il y a une plainte qui a été envoyée à Élections Québec. Il y a du monde qui fait au Parti libéral, c'est qui cet homme d'affaires-là? Il y aura enquête du DGEQ, j'en suis convaincu. Puis attendez-vous à ce qu'il y ait des amendes en arrière de ça et peut-être même des mesures supplémentaires qui seront prises comme cet homme-là qui a commis un geste absolument inacceptable. À ce moment-ci, ce que ça amène aussi, c'est que Pablo Rodriguez, et d'ailleurs l'homme d'affaires le dit, n'était pas au courant de la situation. Mais bien entendu, il subit ce manque de jugement autour de sa campagne à la chefferie. Et tu disais, Jeff, il doit partir. C'est vrai qu'à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, moi, je continue à penser une chose. Vous savez, lorsqu'il y a une personne qui est dans une situation comme celle-là, il faut faire attention à ce que le changement de tête ne vient pas effacer la crise. Alors que dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'il y a encore de la lumière qui doit être faite. Et moi, je pense qu'on doit encore, chez les libéraux, s'assurer de nettoyer toute cette situation-là au maximum. Que Pablo Rodriguez parte aujourd'hui ou qu'il parte le 8 janvier, entre vous et moi, ça ne fait absolument aucune différence dans la politique québécoise ou au Parti libéral. Je pense qu'il y a vraiment un ménage majeur à faire autour de cette campagne-là. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que les libéraux ont passé 7 ans à essayer de nettoyer leur réputation. Mm-hmm. à dire nous sommes un parti qui a compris, qui a changé. Parce qu'à l'époque de la commission Charbonneau, rappelez-vous, il n'y a pas eu d'élus qui ont été accusés, mais il y a eu du monde qui sont passés au tordeur, qui
On
sont passés
commençait,
devant
on
la commission.
commençait à s'en sortir, entre autres, avec le passage d'une Marois Risky qui, auprès du public, des électeurs dans ce cas-ci, avait bonne presse. On commençait, c'était même pas fait, là.
Et ça nous pose la question suivante. Est-ce que la marque libérale est entachée à jamais? Puis très sincèrement, j'ai hâte de voir les sondages des prochains mois. Moi, je vous dirais que probablement que c'est quelque chose auquel on va pouvoir répondre aux alentours du mois de mars. Je m'attends sincèrement à ce que Pablo Rodriguez quitte d'ici la fin du mois de janvier. Je ne pense pas qu'il puisse rester. Là, c'est sa course au leadership qui est remise en question.
Pourquoi il reste
Peut-être que
encore?
si
Victor, pourquoi il
il
reste
reste encore
encore?
parce qu'il ne veut pas donner l'impression qu'il est coupable, Pascal. Le problème ici, c'est que s'il s'en va puis qu'il dit OK, c'est beau, je prends tout le blâme, c'est moi l'imputable, ben c'est comme si tout ce qui se disait et toutes les rumeurs étaient vraies. Il faut quand même se rappeler qu'en ce moment, oui, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vrai parce que l'homme d'affaires en atteste, mais il y a plusieurs choses qui sont encore au stade de rumeurs. Donc je pense que c'est pour ça qu'il reste en poste. Il s'obstine, disons-le, à rester. Mais je pense que ça devient inévitable. Mais j'ai hâte de voir comment les Québécois vont juger, même s'ils quittent. Parce que j'ai l'impression qu'il est fort possible que la marque libérale soit entachée à tout jamais et qu'on doive, chez les libéraux, se poser la question sérieusement à dire, est-ce qu'on peut continuer à exister alors qu'on est incapable de faire une course à la chefferie sans qu'il y ait du fling-flang?
Est-ce qu'on peut encore exister sous le nom du Parti libéral et c'est gros ce que tu amènes là, Victor? Pour revenir à Pablo Rodriguez, t'sais, Pablo Rodriguez est imputable de deux choses. Les 1 000 $ distribués à sa gang de bénévoles avec l'argent qui restait dans les coffres, puis le 20 000 $ donné à sa femme en loyer pour le local. Pour les Brownies, les 500 $, bon, il dit qu'il ne le savait pas. Mais tu sais, ça fait tellement de choses qui tournent autour de lui qu'à un moment donné, c'est un peu. Puis je fais beaucoup le comparatif avec ce qui s'est passé avec sa clique. T'sais. C'était dur pour François Bonnardel et Geneviève Guilbeault de nous dire: Ouais, j'étais pas au courant. T'sais, quand je n'ai pas de souvenir, sort 41 fois de la bouche de Geneviève Guilbeault, on la croit pas.
Le problème, c'est que s'il y a eu du fling-flang dans sa course, sachant qu'il a gagné avec un petit peu plus que 50 % des voix, ben, ça remet en
Mais
question
oui.
la crédibilité même de cette course-là.
Mais oui.
Mm-hmm.
Puis
Là, son
le
problème, il est
valeureux
là.
gagnant aussi.
C'est le valeureux gagnant. Moi, je pense que la seule façon, peut-être, je dis bien peut-être, hein, de se sortir de ça, c'est d'annoncer rapidement qu'il va se soumettre à un vote de confiance lorsque le rapport du juge Fournier sera déposé. Parce que ce serait une façon de dire, regardez, je pense que le choix des membres était clair, suffisamment clair pour que je retourne devant eux.
Question pour toi, Victor. Admettons, bon, il quitte, on n'a plus de Pablo Rodriguez à la chefferie du Parti libéral. Toi, mettons, tu jases souvent avec des ex-politiciens, avec des politiciens actuels, avec des politiciens futurs. On veut-tu se coller à une bannière libérale si on se lance en politique? On veut-tu se coller à la chefferie d'un parti comme celui-là où c'est dangereux de se brûler?
Ce qui sauve le Parti libéral en ce moment, c'est la crainte très forte des fédéralistes de ne pas avoir de voix en cas de victoire du Parti québécois. Je te dirais que ce que j'entends beaucoup plus en ce moment-ci, au-delà de l'inquiétude de ne pas gagner la prochaine élection, c'est de se dire, hey, ce serait qui le chef du camp du non s'il arrivait ça? Je vais vous donner un nom qui circule. Et ce n'est pas une rumeur, je vais appeler ça le fantasme des libéraux. Les libéraux me disent que le seul qui peut sauver les Bob s'appelle Guy Cormier.
Ah
Je reviens sur
ouais.
le mot fantasme. Hein?
L'ex-PDG de la CAI du Mouvement des Jardins.
Exactement. Et je reviens sur le mot fantasme, parce que je ne pense pas que Guy Cormier soit intéressé à y aller. Je n'ai pas posé la question et je n'ai pas de contact avec lui. Mais c'est vrai qu'il est le seul qui aurait ce profil à la Mark Carney de dire j'arrive avec une mission tellement forte et une crédibilité tellement forte qu'elle vient remplacer la crédibilité perdue du Parti libéral par une crédibilité personnelle qui est hors de tout doute pour quelqu'un qui ne vient pas du milieu politique en plus.
Chose certaine, ça magazine des électeurs comme pas possible dans d'autres partis. Éric Duhaime, il y a 1 heure, qui écrivait: Chers sympathisants libéraux, le Parti libéral du Québec ne vous mérite pas. Dissociez-vous de ce fling-flang. Vous ne voulez pas de référendum. Vous ne voulez pas de corruption. Vous êtes favorable au retour à l'équilibre budgétaire. Vous souhaitez des baisses d'impôts. Vous favorisez l'addition du privé en santé pour améliorer les soins. Vous comprenez qu'il faut réduire la taille de la fonction publique. public. Vous respectez davantage les droits civiques et les libertés individuelles. Vous êtes d'accord avec le... ça continue. Avec l'exploitation de notre gaz naturel pour enrichir le Québec. Le Parti conservateur du Québec vous ouvre ses portes et ses bras.
Et Victor François Legault a fait la même chose hier quand il a dit « Ben non, mais là, le Parti libéral n'est pas crédible. Le PQ nous amène à un référendum. Puis moi, j'en veux plus de référendum. Je veux mettre l'économie du Québec en premier lieu. Donc, votez pour moi. » Alors là, tout le monde se déchire, ces électeurs libéraux-là qui traînent, Pascal.
Vous savez quoi? Je vais donner plus de chance à Éric Duhem qu'à François Legault. Je vais vous dire pourquoi.
Ah oui,
François Legault, pour la moitié des libéraux, François Legault, c'est un souverainiste déguisé en autre chose le temps qu'il y a un référendum. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'il entend souvent. Pas sûr que les fédéralistes lui fassent entièrement confiance sur sa métamorphose. Mais ça m'amène sur le sujet d'Éric Duhem. C'est intéressant parce que j'avais le goût d'en parler avec vous ce matin d'Éric Duhem.
Oui, parce que tu voulais parler des gaz naturels, Victor, également.
Les gaz naturels, mais cette déclaration-là, elle nous montre justement l'espèce d'autoroute qui s'ouvre devant Éric Duhem. En ce moment, c'est le fédéraliste le plus actif et désolé de le dire comme ça pour les libéraux qui nous écoutent, le plus crédible sur la scène politique actuelle.
Mais par la défaillance des autres.
À cause de la défaillance des autres. Mais ultimement, puis tu sais, Pascal, on a déjà eu des discussions sur Éric Duhem aussi, est-ce que ça lui prenait pour passer à un niveau supérieur? À ce moment-ci, Éric Duhem a une autoroute devant lui pour dire « Je suis celui qui incarne le nouveau fédéralisme ». Il l'a fait dans le comté d'Arthabasca d'ailleurs. Et justement, de ramener des idées plus que le Parti libéral défendait avant. Et cette idée, par exemple, du gaz naturel, il faut s'en rappeler. C'était l'idée de Jean Charest en 2003, avec les fameux gaz de schiste. Parce qu'on disait, on va aller fracturer le sol québécois parce qu'on a une réserve extraordinaire. Pour les gens qui nous écoutent, c'est 200 ans de gaz naturel qu'on aurait dans le sous-sol québécois. Alors ça, c'est des idées qu'on aurait vu les libéraux défendre à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est Éric Duhem qui les porte. Ça va être intéressant de voir comment il va se positionner parce que, je vous le dis, il y a un potentiel de croissance absolument inattendu pour lui.
En effet, c'est une très belle analyse, Victor. Il y a beaucoup de noms qui ressortent aussi à l'intérieur des libéraux par nos auditeurs. On dit « Ramenez-nous Marc Tanguay » parce que Marc Tanguay était très aimé comme chef par intérim. Et il y a Monsef Deragy aussi. Est-ce que c'est deux personnes qui pourraient venir sauver le parti temporairement?
C'est deux parlementaires qui ont une très belle cote parce qu'ils ont du contenu et de la compétence. Hein, Monsef Deragy a d'ailleurs été choisi par ses collègues comme parlementaire de l'année cette année. Donc c'est
et il a été caché par Pablo Rodriguez, là, je le rappelle.
Il a été gâché par Pablo Rodriguez, Jeff. Hein, on se rappelle que Pablo Rodriguez est arrivé à contredire son député le plus populaire à ce moment-là. Ça fait partie aussi du pourquoi il est dans la situation qu'il est aujourd'hui en passant. Hein? Parce qu'il y a du monde qui ont tendance à le lâcher rapidement. Il est arrivé rapidement en lâchant ses propres députés. Mais le problème que ces deux députés-là ont, pour revenir à ta question, Jeff, c'est qu'ils ont un déficit de notoriété. Et le problème du déficit de notoriété, c'est qu'à 9 mois d'une élection, pour être capable justement d'attirer des candidats vedettes, il faut que la notoriété soit assez haute pour qu'ils soient plus vedettes que les candidats que tu veux amener. Le problème de Monsef Deragy et de Marc Tanguay, il se situe à ce niveau-là. Les Québécois les connaissent peu. Pour ceux qui suivent la politique, oui, mais pour les autres, ça peut être compliqué.
Ça peut être compliqué, certainement, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu perdus, bien, encore plus que tout ce qu'on disait il y a même un an. Pour plusieurs, Pablo Rodriguez, en ne sachant pas, est incompétent, mais en sachant, bien, finalement, il n'est pas transparent, il est menteur, puis dans une continuité sombre du Parti libéral. Donc, c'est pas une option. François Legault semble pas une option pour tout le monde non plus, par tous les déboires de la CAQ que l'on a connus. Pour certains, PSPP n'est pas une option parce qu'ils souhaitent, en fait, la souveraineté. Et pour d'autres, ben, c'est Éric Duhem qui n'en est pas une pour leur raison aussi. Victor Henriquez, loin d'être facile, la politique provinciale?
J'ai toujours dit la politique, c'est un sport extrême. Hein? Et ça nous le démontre à ce moment-ci de façon ultra claire. Demain, le 17 décembre, ça va faire un mois que les libéraux sont empêtrés. Puis rappelez-vous qu'il y a un mois, on disait que Pablo Rodriguez était proche du PQ et qu'on avait une course Parti québécois, Parti libéral. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il reste 10 mois avant l'élection. Et dans une année préélectorale, avec des élections à date fixe, même s'il y a des rumeurs comme quoi François Legault pourrait devancer, très honnêtement, je serais extrêmement surpris qu'il devance. Extrêmement surpris. 10 mois, c'est une éternité. Vous allez voir, non pas de l'eau couler sous les ponts, mais des torrents d'eau qui vont couler sur les ponts de la politique québécoise. Ce sera intéressant à suivre, mais je suis incapable à ce moment-ci de vous dire sur qui je parierais comme candidat à la prochaine élection, autre que PSPP. Et peut-être François Legault, je commence finalement à croire ce qu'il nous dit depuis le début de l'été, finalement, qu'il veut rester.
On le rappelle, François Legault en studio avec nous aux alentours de 8h20 demain matin dans Marceau le matin. Victor Henriquez, les buts de neige. T'es-tu aussi fâché que moi puis Pascal CV de dire « Ouais, au coup d'heure, nos enfants peuvent plus s'amuser au Québec. C'est quoi cette affaire-là? »
C'est complètement ridicule. Puis ça m'a rappelé, je me suis dit, quand j'ai vu la nouvelle ce matin, j'ai fait comme « Hey, il n'y avait pas des spécialistes l'an dernier qui ont dit que c'était bon pour nos enfants de faire des jeux risqués? » Puis là, tu sais, moi, il faut que je me parle, hein, parce que je fais partie de la génération papier à bulles. Tu sais, nous, on aimerait emballer nos enfants dans du papier à bulles, les envoyer dehors, leur mettre des puces électroniques pour savoir où est-ce qu'ils sont en tout temps. Là, tu sais, j'assume. Je suis de cette génération-là avec les enfants. Il faut que je me parle à chaque fois qu'ils vont jouer dehors. Mais je suis content qu'ils y aillent. Tu sais. Puis là, je vois que je me dis, hey, mon pauvre directeur d'école là, va devoir sortir dehors, aller mesurer avec son tape à mesurer la butte, savoir si elle fait 3,20 m ou 2,49 m. C'est complètement ridicule. Et après ça, j'ai lu la nouvelle, puis je me suis rendu compte que c'était une question d'assurance. Mmh. Et là, ce que je trouvais ridicule m'a mis en beau tas, comme on dit. Parce que je suis désolé, mais les assurances ne devraient pas être ce qui guide comment est-ce qu'on gère nos enfants dans les écoles. Je comprends que les assureurs veulent payer le moins possible. Et moi, j'étais curé de payer des assurances dans la vie, en général, dans tous les secteurs, pour que finalement, à chaque fois qu'on réclame, on se fasse dire qu'il faut prendre de nouvelles mesures pour ne pas réclamer.
Ou avoir toutes les factures, ou même de des vêtements usés d'il y a 10 ans parce que c'était dans la valise perdue quelconque pour avoir la somme réclamée. Mais les assurances, c'est une chose. Mais si on a besoin de s'assurer autant, c'est fort probablement parce qu'il y a eu poursuite parentale à un moment ou à un autre sur le fait qu'un enfant a été blessé dans une cour d'école comme il se faisait il y a plusieurs décennies puis qu'on réglait entre nous.
C'est possible aussi. Et tu sais, les Américains sont d'ailleurs un beau modèle là-dessus parce qu'ils poursuivent à peu près tout le monde et n'importe quoi pour n'importe quoi, justement. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans ce genre de ridicule au Québec. Une des forces qu'on a, c'est justement d'être des gens peut-être un peu plus raisonnés. Hein. Je comprends que les assureurs soient prudents, mais à un moment donné, il va falloir trouver de l'équilibre. J'étais content d'entendre la réaction de François Legault ce matin. D'ailleurs, qui a une bonne fin d'automne, François Legault. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous trouvez, on retrouve le François Legault de la pandémie là, qu'on trouvait naturel, puis très à l'aise.
J'ajoute un peu
de nuance.
Mais j'ajoute un peu le fait que, un, il n'y a pas le choix. Deux, il continue de s'élever au-dessus de ses ministres. Pour moi, ça ne fait pas un leader fort de son leadership parce que normalement, ben, tu marches à côté de ton monde et non en face, en avant, à essayer de recoller des pots cassés que toi-même te crées, veux pas. Puis l'autre affaire, c'est que je me dis, il est aussi un petit peu victorieux de la défaite des autres. Fait que je ne lui donne pas à 100% cette superbe fin d'automne.
J'ai hâte d'avoir ton ressenti demain après que vous le rencontriez. Oui. Justement, vous le recevez à 8h20.
J'ai peur de le fâcher.
Je dis ça parce que ben, moi, j'ai trouvé que là-dessus, tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait la voix justement du parent. J'ai entendu un premier ministre qui a dit ce que je pensais devant la nouvelle, avec une ministre Sonia Lebel qui demande au centre de service scolaire et aux directions d'école de faire preuve de leur propre jugement. J'aime le fait qu'on fasse confiance à nos directions d'école. Gérons l'assurance du bord administratif. La ministre pourra s'en occuper. Je suis sûr qu'elle a les compétences pour le faire. Mais j'espère que les directions d'école ne vont pas se mettre à mesurer. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Et pour vrai, là, à un moment donné, est-ce qu'on peut commencer à laisser nos jeunes prendre des risques? Sinon, imaginez le genre d'adultes que ça fera. Mm-hmm. Ils auront peur de tout. Et le risque, c'est le droit à l'échec. Hein? C'est le privilège qu'on se donne de se tromper, de tomber, puis d'apprendre à se relever. Moi, j'espère qu'on va s'assurer de ne pas vivre ça. Puis, mon Dieu, c'était le fun de jouer dans les buts l'hiver. Imaginez, c'est à 3 mètres, c'est pas mal moins le fun.
J'adore ce que tu viens de dire, Victor, que le risque, c'est aussi le droit à l'échec. Et oui, faut perdre, faut échouer pour apprendre. Et c'est comme ça. Moi, je suis un coach de sport, puis c'est comme ça. Derrière chaque défaite, il y a un apprentissage, puis ça permet à l'équipe de devenir meilleure. Donc, je suis tellement d'accord avec toi. Pascal parlait des ministres de François Legault, et ça m'amène à te parler de Lionel Carman. François Legault, hier, dans son entrevue avec Paul Larocque, a ouvert la porte à un retour de Lionel Carman, non pas dans le Conseil des ministres, mais au sein du caucus de la CAQ. Est-ce que Lionel Carman va vraiment lui retourner? Et je t'explique ma pensée, c'est que je me dis, OK, c'est réglé avec les médecins, donc Lionel Carman pourrait y retourner. Mm-hmm. Mais la CAQ a quand même fait le geste fort d'imposer cette loi spéciale 2-là, qui a créé un ressac immense au niveau des médecins. Puis il y en a qui ne reviendront pas et qui vont avoir quitté. Donc, il me semble que pour moi, Lionel Carman, médecin spécialiste qui va retourner en médecine à la fin de sa carrière politique, s'il retourne à la CAQ, il tourne quand même le dos à ses collègues de travail.
Je comprends ce que tu dis, Jeff. Je trouve ça intéressant. Comment moi, je me suis dit que ça ferait. Il y aura probablement une très belle discussion autour de la danse chez Lionel Carman. Hein, parce qu'on se rappelle, Lionel Carman nous avait dit le problème, c'est que sa femme est médecin et sa fille est médecin. Et sa fille a fait une sortie publique très intéressante sur la question. Est-ce que ça provoquait ce projet de loi sur les jeunes médecins, d'ailleurs? Alors, la discussion va être super intéressante. J'ai hâte de voir le résultat de ça. Une chose est claire, pour François Legault, de pouvoir récupérer Lionel Carman, c'est extrêmement important. C'est important émotivement. Il faut se rappeler que Lionel Carman est un des premiers à l'avoir suivi dans cette aventure de la CAQ. Et si c'est la fin pour François Legault, je suis convaincu qu'il veut finir avec son ami Lionel. Et pour Lionel Carman, ça avait aussi été un choix difficile. Hein? C'est un fidèle de chez fidèle, Lionel Carman, député extrêmement apprécié en passant par tous les collègues, quel que soit le parti. Un homme est foncièrement bon. Et je pense que ça ferait du bien à la Coalition Avenir Québec de le retrouver. Ce sera son choix. Et ce sera certainement un choix de famille. Je ne le connais pas personnellement, mais tout ce que j'entends à son sujet nous dit que probablement, oui, ce sera une conversation c'est durant le temps des fêtes avec sa famille, de voir s'ils sont à l'aise, qu'ils reviennent. Et s'ils le sont, ben, ce serait un très grand gain pour François Legault. Ça nous démontre cependant que ce projet de loi et l'exemple de ce qui arrive quand on a un projet de loi qui est mal ficelé et qu'on a une conversation qui est mal entamée avec le public parce qu'il a payé très cher ce projet de loi sur lequel finalement il recule sur des grands éléments de celui-ci.
Est-ce que ça peut être vu comme un manque de colonne vertébrale de la part d'électeurs? C'est des textos que l'on reçoit.
Les gens sont durs hein, avec les politiciens. C'est très dur. Non, parce qu'il n'est pas allé ailleurs. Moi, je pense que oui, il y a des gens qui vont le dire, mais très honnêtement, il n'y a personne qui pense que Lionel Carman est autre chose qu'un caquiste. Hein. Donc oui, ça doit être un député indépendant qui n'était plus à l'aise de siéger avec son parti. À partir du moment où son parti a reculé sur la moitié du projet de loi, est-ce que c'est de la plaventrisme de revenir à la maison? Ben, tu sais, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent avoir l'exemple de chicaner avec ta femme, partir une couple de jours, réfléchir, puis revenir pareil. Ça ne veut pas dire que c'est de la plaventerie ce que tu fais. Mm-hmm. Je pense que ça peut arriver en politique comme dans la vraie vie. Alors, je trouve que les gens qui diraient ça seraient peut-être un peu trop durs avec toi.
Tu as juste préparé un peu les chandelles, tu as cuisiné un bon repas, puis tu dis « me voici de retour à la maison, chérie. Main dans la main, on va faire un autre bout de chemin ensemble. »
Au pire, une coupe de session de psychothérapie de couple. Et,
Victor, je termine avec Maxi qui dépasse Costco parmi les épiceries les plus populaires pour les Québécois. Je vais t'avouer, je me demandais, j'étais le seul à avoir fait ce mouvement-là. Et je t'explique, les temps sont durs. On n'a pas de l'argent qui déborde de nos poches. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en allant chez Maxi, j'avais des meilleurs rabais. Puis je n'étais pas obligé d'acheter des quantités qui, anyway, je vais finir par en acheter à un prix qui, oui, à l'unité, revient meilleur qu'au Maxi, mais chez Costco, j'en ai toujours trop, puis ça me coûte toujours trop cher.
Nous ne sommes pas commandités par Martin Matt ni par Maxi pour faire ce segment, mais je suis à la même place que toi, Jeff. Je pense que c'est la victoire du bas prix. Et c'est une bonne nouvelle pour Maxi. Ça démontre aussi la force de sa stratégie de marketing. Il faut se rappeler que Maxi, rappelez-vous, il y a une couple de près d'un an et demi, deux ans, Maxi avait décidé de transformer les Provigo en Maxi.
Oui.
Il avait décidé d'avoir une stratégie où est-ce qu'on passait des très gros Maxi, les fameux Maxi et compagnie, à des Maxi de proximité. Une stratégie qui a amené beaucoup d'ouvertures de nouveaux magasins et qui a rapproché cette bannière de bas prix du citoyen. Moi, je pense que ça a un effet important. Le côté négatif de cette nouvelle, c'est que ça nous démontre aussi toute la pression que le panier d'épicerie fait sur les Québécois aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le sondage, j'invite les gens à aller regarder l'étude où Maxi passe devant Costco, seulement au Québec en passant. Hein. Costco est toujours devant dans le reste du Canada. Et principalement, les Québécois sont ceux qui regardent le plus au Canada le prix des denrées pour faire le choix de leur épicerie. Moi, je suis comme toi, Jeff, j'ai fait le choix de Maxi aussi. Je trouve que les produits aussi se sont améliorés en termes de fraîcheur. Il y a une époque où est-ce que Maxi n'était pas nécessairement aussi bien garni. Mais ça nous démontre que les gens trouvent ça dur. L'inflation sur l'épicerie a été très élevée en 2025, hein, 3,8% de ce qu'on a su. Et malheureusement, ça n'a pas l'air de vouloir baisser les prochaines années. Alors, les Québécois cherchent des solutions. Maxi en profite. mais c'est pas une bonne nouvelle pour notre économie en général. Heureusement qu'il y a, par exemple, des options pour les gens qui veulent faire attention. Et je pense qu'on fait tous attention maintenant à où est-ce qu'on fait notre épicerie.
Exactement. Merci beaucoup, Victor Henriquez, pour cet excellent caucus. On apprécie énormément ta présence cette semaine et on se reparle demain.
Pour demain, bonne journée à tous.
Salut,
bonne
Victor.
Journée.
Merci beaucoup, Victor Henriquez, que vous allez entendre en remplacement d'Antonine Iacarini cette semaine, du lundi au jeudi, de midi à 12h30 et dans la semaine du 5 janvier.
Avec grand bonheur, on l'accueille. Ah, vous oui. connaissez en plus bien ici à Boulevard
Saint-Denis. Pascal, c'est des raisins du Maxi. Ils sont super bons.
Il y a des gens aussi qui disent, ben tu sais, au Costco, tu as payé une carte de membre aussi, plusieurs.
C'est
ça
vrai.
D'avoir
t'as entièrement raison.
Avec un membership.
Ah non, vraiment. Puis quand Victor parlait des Maxi qui sont devenus des Maxi de proximité, il frappe dans le mille. Moi, c'est le cas. À deux coins de rue de chez moi, c'est un Provigo, il y a de cela peut-être 3-4 ans, c'est maintenant un Maxi. Pis, on retrouve plein de produits justement à bas prix. Puis vu que c'est à proximité, ben dépense pas d'essence.
Il y avait beaucoup aussi de stéréotypes et de préjugés. Puis certains étaient des faits sur Maxi il y a quelques années, dans le sens où c'est une épicerie où, dans la catégorisation des fruits et légumes, c'est pas la même catégorisation qu'un IGA puis qu'un Metro, par exemple. Fait que dans la qualité de ton fruit, ben, admettons que tu as une échelle de 1 à 5, je ne sais pas exactement c'est quoi, ben, ça se peut que ce soit un fruit 2, 3, mm-hmm. au lieu d'un fruit 4, 5. Ce qui fait en sorte qu'il y avait une grande... Oui, une grande différence entre la clientèle dans un IGA puis dans un Maxi.
Oui.
Mais avec l'achalandage que Maxi a réussi à aller chercher, avec les bas prix, avec l'inflation, avec le fait que, bon, le portrait de l'instabilité financière puis l'instabilité alimentaire a énormément changé, il y a plusieurs gens qui ont migré dans des épiceries
vraiment?
Comme Maxi. Donc, il y a un état de roulement qui est beaucoup plus important qu'il y avait. La fraîcheur, il y a une différence aussi.
Tu as entièrement
cette fraîcheur-là
raison.
Renouvelée a attiré d'autres personnes. Et le portrait, initialement, que certaines bannières avaient, qui était un petit peu plus défavorable au niveau de la fraîcheur, a beaucoup changé.
Mais tu as entièrement raison, parce que moi, au début, j'allais au Maxi puis je me disais, ah, le canage, les bords tendres, ces affaires-là, c'est là que je prends ça. Puis j'allais prendre mes fruits, légumes puis ma viande au IGA, au métro. Et maintenant, je fais vraiment mon épicerie chez Maxi parce que je retrouve une bonne qualité de produit. Donc, tu as entièrement raison. Au niveau de la fraîcheur des aliments, les fruits, les légumes, je vois vraiment une différence.
Marketing réussit d'aller chercher Martin Matt, qui est vu comme une sommité, qui financièrement, ça déborde, etc. Puis l'amener aussi à déstéréotyper le Maxi comme étant, tu sais, avant, ah, c'est pour les pauvres, c'est pas aussi pour ça. Mais là, Martin Matt, il va, entre parenthèses, on l'a pas suivi à trace, mais
non.
Coup marketing aussi.
En effet, tu as entièrement raison, Pascal. Après la pause, on continue à parler des buts de neige.
Avec
Sylvain Dutelot, l'enseignant, sera avec nous. Et sur ses médias sociaux, qu'est-ce qu'il a fait dans le matin? Répète-moi ça. Là.
Il a fait les interdits les plus loufoques dans le système scolaire, et ça, je trouve ça très bon.
Ah, j'ai tellement hâte d'entendre ça. C'est sûr qu'on va rire, mais des fois, on va peut-être rire jaune en disant « Ah ouais,
surtout
on est vraiment rendu là. Hein? » Donc, c'est immédiatement après cette courte pause à l'émission d'Angers sur Boulevard 102.